Examinons à présent ce que nous doit entendre par le mot d'Église. Par ce terme, j'entends une société d'hommes qui se joignent volontairement ensemble pour servir Dieu en public et lui rendre le culte qu'ils jugent lui être agréable et propre à leur faire obtenir le salut. Je dis que c'est une société libre et volontaire, puisqu'il n'y a personne qui soit membre né d'aucune église. Autrement, la religion des pères et des mères passerait aux enfants par le même droit que ceux-ci héritent de leurs biens temporels, et chacun tiendrait sa foi par le même titre qu'il jouit de ses terres, ce qui est la plus grande absurdité du monde. Voici donc de quelle manière il faut concevoir la chose. Il n'y a personne qui, par sa naissance, soit attaché à une certaine église ou à une certaine secte plutôt qu'à une autre. Mais chacun se joint volontairement à la société dont il croit que le culte est plus agréable à Dieu. Comme l'espérance du salut a été la seule cause qui l'a fait entrer dans cette communion, c'est aussi par ce seul motif qu'il continue d'y demeurer. Car s'il vient dans la suite à y découvrir quelque erreur dans sa doctrine, ou quelque chose d'irrégulier dans le culte, pourquoi ne serait-il pas aussi libre d'en sortir qu'il a été d'y entrer? Les membres d'une société religieuse ne sauraient y être attachés par d'autres liens que ceux qui naissent de l'attente assurée où ils sont, de la vie éternelle. Une église, donc, est une société de personnes unies volontairement ensemble pour arriver à cette fin. Il faut donc examiner à présent quel est le pouvoir de cette église et à quelles lois elle est assujettie. Tout le monde avoue qu'il n'y a point de société, quelque libre qu'elle soit, ou pour quelque légère occasion qu'elle se soit formée, soit qu'elle se compose de philosophes pour vaquer à l'étude, de marchands pour négocier ou d'hommes de loisirs pour converser ensemble, il n'y a point, dis-je, d'église ou de compagnie qui puisse durer bien longtemps et qui ne soit bientôt détruite si elle n'est gouvernée par quelque loi et si tous les membres ne consentent à l'observation de quelque ordre. Il faut convenir du lieu et du temps des assemblées, il faut établir des règles pour admettre ou exclure des membres. On ne doit pas négliger non plus la distinction des offices, ni la régularité dans la conduite des affaires, ni rien de tout ce qui regarde la bienséance et les autres choses de cette nature. Mais, comme nous avons déjà prouvé que l'union de plusieurs membres pour former un corps d'église est tout à fait libre et volontaire, il s'ensuit de là nécessairement que le droit de faire des lois ne peut appartenir qu'à la société elle-même, ou du moins qu'à ceux qu'elle autorise d'un commun consentement à y travailler, ce qui revient à la même chose. Quelques-uns objecteront peut-être qu'une pareille société ne saurait avoir le caractère d'une vraie église, à moins qu'elle n'ait un évêque ou un prêtre, qui la gouverne avec une autorité dérivée des apôtres eux-mêmes, et continuée jusqu'à ce jour par une succession non interrompue. Je leur demanderai d'abord qu'ils me fassent voir l'ordre par lequel Jésus-Christ a imposé cette loi à son Église. Je ne crois pas même que l'on puisse m'accuser d'indiscrétion si, dans une affaire de cette importance, j'exige que les termes de cet ordre soient express et positifs. Car la promesse qu'il nous a faite que partout où il y aurait deux ou trois personnes assemblées en son nom, il serait au milieu d'elles, Matthieu, livre 18, chapitre 5, verset 20, semble signifier tout le contraire. Je l'ai pris donc d'examiner si une pareille assemblée manque de quelque chose qui lui soit nécessaire pour la rendre une vraie église. Pour moi, je suis persuadé qu'elle ne manque de rien pour obtenir le salut, et cela doit suffire pour l'objet que je me propose. Ensuite, si l'on prend garde aux dissentiments très prononcés qu'il y a toujours eu entre ceux-là même qui ont tant fait valoir l'institution divine et la succession continue d'un certain ordre de directeurs dans l'Église, on trouvera que cette dissension nous engage de toute nécessité à l'examen et nous donne par conséquent la liberté de choisir ce qui nous paraît le meilleur. Enfin, je consens à ce que ces personnes-là aient un chef de leur Église, établi par une aussi longue succession qu'elles le jugent nécessaire, pourvu qu'elles me laissent en même temps la liberté de me joindre à la société où je crois trouver tout ce qui est nécessaire au salut de mon âme. Alors, tous les partis jouiront de la liberté ecclésiastique et ils n'auront d'autre législateur que celui qu'ils auront choisi. Mais puisque l'on est si fort en peine de savoir quelle est la vraie Église, je demanderai seulement ici en passant s'il n'est pas plus du caractère de l'Église de Jésus-Christ d'exiger pour condition de sa communion les seules choses que l'Écriture sainte déclare en termes express être nécessaires au salut, que d'imposer aux autres ses propres inventions ou ses explications particulières, comme si elles étaient appuyées sur une autorité divine, et d'établir par des lois ecclésiastiques, comme absolument nécessaires à la profession du christianisme, des choses dont l'Écriture ne dit pas un mot, ou du moins, qu'elle ne commande pas en termes clairs et positifs. Tous ceux qui, pour admettre quelqu'un à leur communion ecclésiastique, exigent de lui des choses que Jésus-Christ n'exige point pour lui faire obtenir la vie éternelle, peuvent bien former une société qui s'accorde avec leurs opinions et leurs avantages temporels. Mais je ne conçois pas qu'on puisse donner le titre d'Église de Jésus-Christ, puisqu'elle n'est pas fondée sur ses lois et qu'elle exclut de sa communion des personnes qu'il recevra lui-même un jour dans le royaume des cieux. Mais comme ce n'est pas ici le lieu d'examiner quelles sont les marques de la vraie Église, je me contenterai d'avertir ces ardents défenseurs des dogmes de leur société qui crient sans relâche « L'Église, l'Église !» avec autant de force et peut-être dans la même vue que les orfèvres de la ville d'Éphèse exaltaient leur Diane. Je me contenterai, dis-je, de les avertir que l'Église témoigne partout que les véritables disciples de Jésus-Christ souffriront de grandes persécutions. Mais je ne sache pas avoir lu, dans aucun endroit du Nouveau Testament, que l'Église de ce divin Sauveur doive persécuter les autres et les contraindre, par le fer et par le feu, à recevoir ses dogmes et sa créance. Le but de toute société religieuse, comme nous l'avons déjà dit, est de servir Dieu en public et d'obtenir par ce moyen la vie éternelle. C'est donc là que doit tendre toute la discipline et c'est dans ces bornes que toutes les lois ecclésiastiques doivent être renfermées. Aucun des actes d'une pareille société ne peut ni ne doit être relatif à la possession des biens civils ou temporels. Il ne s'agit point ici d'employer, pour quelque raison que ce soit, aucune force extérieure, car la force appartient au magistrat civil, et la possession de tous les biens extérieurs est soumise à sa juridiction. On me demandera peut-être, quelle vigueur donc restera-t-il aux lois ecclésiastiques, et comment sera-t-il possible de les faire exécuter si l'on en bannit toutes sortes de contraintes? Je réponds qu'elles doivent être établies par des moyens conformes à la nature d'un ordre de choses dont l'observation extérieure est inutile, si elle n'est accompagnée de la persuasion du cœur. En un mot, les exhortations, les avis et les conseils sont les seules armes que cette société doit employer pour retenir ses membres dans le devoir. Si tout cela n'est pas capable de ramener les égarés et qu'ils persistent dans l'erreur ou dans le crime, sans donner aucune espérance de leur retour, il ne lui reste alors d'autre parti à prendre qu'à les éloigner de sa communion. C'est le plus haut degré où le pouvoir ecclésiastique puisse atteindre. Et toute la peine qu'il inflige se réduit à rompre la relation qu'il y avait entre le corps et le membre qui en a été retranché, en sorte que celui-ci ne fasse plus partie de cette Église. Cela posé, examinons quels sont les devoirs où la tolérance engage et ce qu'elle exige de chaque individu. Et d'abord, je soutiens qu'aucune Église n'est obligée par le devoir de la tolérance à garder dans son sein un membre qui, après en avoir été averti, continue à pécher contre ses lois, parce qu'elles sont les conditions de sa communion, l'unique lien qui la conserve, et que, s'il était permis de les violer impunément, elle ne saurait plus subsister. Après tout cela, il faut prendre garde que ni l'acte d'excommunication ni son exécution ne soient accompagnés de paroles injurieuses, ni d'aucune violence qui blesse le corps ou qui porte aucun préjudice au bien de la personne excommuniée. Car l'emploi de la force n'appartient qu'au magistrat, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois. Et il n'est permis aux particuliers que pour leur propre défense en cas d'agression injuste. L'excommunication ne peut ôter à l'excommunié aucun des biens civils qu'il possédait parce qu'il regarde l'état civil et qu'ils sont sous la protection du magistrat. Toute la force de l'excommunication se réduit à ceci. C'est qu'après avoir déclaré la résolution de la société, l'union qu'il y avait entre ce corps et l'un de ses membres est rompue et que, de cette manière, la participation à certaines choses que cette société accorde à ses membres et auxquelles il n'y a personne qui ait un droit civil vient aussi à discontinuer. Du moins, l'excommunié ne reçoit aucune injure civile si, dans la célébration de la scène du Seigneur, le ministre d'une église lui refuse du pain et du vin qui n'ont pas été achetés de son propre argent. En second lieu, Il n'y a point de particulier qui ait le droit d'envahir ou de diminuer en aucune manière les biens civils d'un autre, sous prétexte que celui-ci est d'une autre église ou d'une autre religion. Il faut conserver inviolablement à ce dernier tous les droits qui lui appartiennent comme homme ou comme citoyen. Ils ne sont nullement du ressort de la religion et l'on doit s'abstenir de toute violence et de toute injure à son égard, qu'il soit chrétien ou païen. Bien plus, il ne faut pas s'arrêter dans les simples bornes de la justice. Il faut y ajouter la bienveillance et la bonté. Voilà ce que l'Évangile ordonne, ce que la raison persuade, ce qu'exige la société, que la nature a établi entre les hommes. Si un homme s'écarte du droit chemin, c'est un malheur pour lui et non un dommage pour vous, et vous ne devez pas le dépouiller des biens de cette vie parce que vous supposez qu'il sera misérable dans celle qui est à venir. Ce que je viens de dire de la tolérance mutuelle que se doivent les particuliers, qui diffèrent de sentiments sur le fait de la religion, doit aussi s'étendre des églises particulières, qu'on peut regarder en quelque manière comme des personnes privées, les unes à l'égard des autres. Aucune d'elles n'a aucune sorte de juridiction sur une autre, non pas même lorsque l'autorité civile se trouve de son côté, comme il arrive quelquefois. Parce que l'État ne peut donner aucun privilège à l'Église, non plus que l'Église à l'État. L'Église demeure toujours ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une société libre et volontaire, soit que le magistrat se joigne à sa communion ou qu'il l'abandonne. Et, qui plus est, elle ne saurait acquérir, par son union avec lui, le droit du glaive, ni perdre, par sa séparation, celui qu'elle avait d'instruire ou d'excommunier. Ce sera toujours un droit immuable de toute société volontaire de pouvoir bannir de son sein ceux de ses membres qui ne se conforment pas aux règles de son institution, sans acquérir pourtant aucune juridiction sur les personnes qui sont dehors, par l'accession de quelque nouveau membre que ce soit. C'est pourquoi les églises doivent toujours entretenir la paix, la justice et l'amitié entre elles, de même que les simples particuliers, sans prétendre à aucune supériorité ni juridiction les unes sur les autres. Pour rendre la chose plus claire par un exemple, supposons qu'il y ait deux églises à Constantinople, l'une de calvinistes et l'autre d'arméniens. Dira-t-on que les uns ont le droit de priver les autres de leur liberté, de les dépouiller de leurs biens, de les envoyer en exil, ou de les punir même de mort, comme on l'a vu pratiquer ailleurs, parce qu'ils diffèrent entre eux à l'égard de quelques dômes ou de quelques cérémonies, tandis que le Turc demeurerait tranquille spectateur de ses fureurs et rirait de voir les chrétiens se porter à un tel excès de cruauté et de rage les uns contre les autres. Mais si l'une des deux églises a ce pouvoir de maltraiter l'autre, je voudrais bien savoir à laquelle il appartient et de quel droit. L'on me répondra sans doute que les orthodoxes ont de droit l'autorité sur les hérétiques. Mais ce sont là de grands mots et des termes spécieux qui ne signifient absolument rien. Chaque église est orthodoxe à son égard, quoiqu'elle soit hérétique à l'égard des autres. Elle prend pour vérité tout ce qu'elle croit et traite d'erreur l'opinion contraire à la sienne. De sorte que la dispute entre ces deux églises, sur la vérité de la doctrine et la pureté du culte, est égale de part et d'autre, et qu'il n'y a point de juge vivant à Constantinople, ni même sur toute la terre, qui la puisse terminer. La décision de cette question n'appartient qu'au souverain juge de tous les hommes, et c'est lui seul aussi qui a le droit de punir ceux qui sont dans l'erreur. Je laisse donc à penser quel est le crime de ceux qui joignent l'injustice à l'orgueil, si ce n'est pas même à l'erreur, lorsqu'ils persécutent et qu'ils déchirent, avec autant d'insolence que de témérité, les serviteurs d'un autre maître, qui ne relève point d'eux à cet égard. Il y a plus. Supposez qu'on pût découvrir laquelle de ces deux églises est véritablement orthodoxe. Cet avantage ne lui donnerait pas le droit de ruiner l'autre, parce que les sociétés ecclésiastiques n'ont aucune juridiction sur les biens temporels et que le fer et le feu ne sont pas des instruments propres pour convaincre les hommes de leur erreur et les amener à la connaissance de la vérité. Supposons néanmoins que le magistrat civil incline en faveur de l'une de ces églises, qu'il lui confie son glaive et qu'il lui permette d'en agir avec les opposants de la manière qui lui plaira. Peut-on dire que cette permission, accordée par un empereur turc, donne le droit à des chrétiens de persécuter leurs frères? Un infidèle, qui lui-même n'a pas le droit de les punir à cause de la religion qu'il professe, ne saurait donner ce qu'il n'a pas. D'ailleurs, il faut entendre ceci de tous les États chrétiens. Ce serait le cas à Constantinople, et la raison en est la même pour quelque royaume chrétien que ce soit. Le pouvoir civil est partout le même, en quelque main qu'il se trouve, et un prince chrétien ne saurait donner plus d'autorité à une église qu'un prince infidèle, c'est-à-dire aucune. Peut-être aussi qu'il ne sera pas mal à propos de remarquer en passant que tous ces zélés défenseurs de la vérité, tous ces ennemis jurés des erreurs et du schisme, ne font presque jamais éclater le zèle ardent qu'ils ont pour la gloire de Dieu que dans les endroits où le magistrat les favorise. Dès qu'ils ont obtenu la protection du gouvernement civil et qu'ils sont devenus supérieurs à leurs ennemis, il n'y a plus de paix ni de charité chrétienne. Mais ont-ils le dessous? Ils ne parlent que de tolérance mutuelle. S'ils n'ont pas la force en main ni le magistrat de leur côté, ils sont paisibles et ils endurent patiemment l'idolâtrie, la superstition et l'hérésie, dont le voisinage leur fait tant de peur en d'autres occasions. Ils ne s'amusent point à combattre les erreurs que la cour adopte. Quoique la dispute, soutenue par de bonnes raisons et accompagnée de douceur et de bienveillance, soit l'unique moyen de répandre la vérité. Il n'y a donc aucune personne, ni aucune église, ni enfin aucun État, qui ait le droit, sous prétexte de religion, d'envahir les biens d'un autre, ni de le dépouiller de ses avantages temporels. S'il se trouve quelqu'un qui soit d'un autre avis, je voudrais qu'il pensât au nombre infini de procès et de guerres qu'il existerait par là dans le monde. Si l'on admet une fois que l'Empire est fondé sur la grâce et que la religion se doit établir par la force et par les armes, on ouvre la porte au vol, au meurtre et à des animosités éternelles. Il n'y aura plus ni paix, ni sûreté publique, et l'amitié même ne subsistera plus entre les hommes. En troisième lieu, voyons quel est le devoir que la tolérance exige de ceux qui ont quelque emploi dans l'Église et qui se distinguent des autres hommes qu'il leur plaît de nommer laïcs et par les titres d'évêque, de diacre, de ministre et par tels autres noms. Ce n'est pas ici le lieu de chercher l'origine du pouvoir ou de la dignité du clergé. Je dis seulement que, quelle que soit la source de ce pouvoir, puisqu'il est ecclésiastique, il faut sans doute qu'il soit renfermé dans les bornes de l'Église et qu'il ne saurait en aucune manière s'étendre aux affaires civiles parce que l'Église elle-même est entièrement séparée et distincte de l'État. Les bornes sont fixes et immuables de part et d'autre. C'est confondre le ciel avec la terre que de vouloir unir ces deux sociétés qui sont tout à fait distinctes et entièrement différentes l'une de l'autre, soit par rapport à leur origine, soit par rapport à leur but ou à leurs intérêts. Quelque charge ecclésiastique qu'est donc un homme, il n'en saurait punir un autre qui n'est pas de son Église, ni lui ôter, sous prétexte de religion, aucune partie de ses biens temporels, ni le priver de sa liberté, et encore moins de la vie. Car ce qui n'est pas permis à toute l'Église encore ne saurait devenir légitime par le droit ecclésiastique dans aucun de ses membres. Mais il ne suffit pas aux ecclésiastiques de s'abstenir de toute violence, de toute rapine, de toute persécution. Puisqu'ils se disent successeurs des apôtres et qu'ils se chargent d'instruire les peuples, il faut qu'ils leur enseignent à conserver la paix et l'amitié avec tous les hommes et qu'ils exhortent à la charité, à la douceur et à la tolérance mutuelle les hérétiques et les orthodoxes, tant ceux qui se trouvent de leur opinion que ceux qui en diffèrent, tant les particuliers que les magistrats, s'il y en a quelqu'un qui soit membre de leur Église. En un mot, il faut qu'ils travaillent à éteindre cette animosité qu'un zèle indiscret ou que l'adresse de certaines gens allume dans l'esprit des différentes sectes qui partagent le christianisme. Si l'on prêchait partout cette doctrine de paix et de tolérance, je n'ose dire quel fruit il en reviendrait à l'Église et à l'État, de peur de faire tort à des personnes dont je voudrais que tout le monde respectât la dignité et qu'ils n'y fissent eux-mêmes aucune tâche. Il est du moins certain que c'est leur devoir. Et si quelqu'un de ceux qui se disent les ministres de la parole de Dieu et les prédicateurs de l'évangile de paix enseigne une autre doctrine, il ignore la mission ou il la néglige, et il en rendra compte un jour au prince de la paix. S'il faut exhorter les chrétiens à s'abstenir de la vengeance, quand même on les aurait provoqués par des injustices réitérées, combien plus doit-on s'abstenir de toute colère et de toute action violente envers des personnes de qui l'on n'a reçu aucun mal, ou qui même ne pensent qu'à leurs véritables intérêts et à servir Dieu de la manière qui leur paraît lui être la plus agréable, ou qui enfin embrassent la religion où ils croient pouvoir mieux faire leur salut. Lorsqu'il s'agit de la disposition des biens temporels et de la santé du corps, il est permis à chacun de se gouverner à cet égard comme il le juge à propos. Il n'y a personne qui se mette en colère de ce que son voisin gouverne mal ses affaires domestiques, ou de ce qu'il n'a pas semé son champ comme il faut, ou de ce qu'il a mal marié sa fille. On ne s'inquiète point pour ramener un homme qui se ruine par ses débauches ou au cabaret. Qu'il édifie ou qu'il renverse, qu'il prodigue son bien à tort et à travers, tout cela est permis, et on lui laisse toute liberté. Mais s'il ne fréquente pas l'église, s'il ne se conforme pas exactement aux cérémonies prescrites, s'il ne présente pas ses enfants pour être initié dans les mystères de telle ou telle communion, alors on entend dans tout le voisinage que murmures, que clameurs et qu'accusations. Chacun est prêt à venger un crime si énorme, et peu s'en faut que les zélés n'en viennent au pillage et à la violence, jusqu'à ce que le prétendu criminel soit traîné devant le juge, mis en prison et condamné à la mort ou à la perte de ses biens. Sans doute, il est permis aux ministres de toutes les sectes de combattre les erreurs qui sont opposées à leurs croyances et d'y employer toute la force de raisonnement dont ils sont capables. Mais qu'ils épargnent au moins les personnes, qu'ils ne supplient pas au manque de preuves solides en recourant aux instruments de la force qui appartiennent à une autre juridiction et qui conviennent mal aux mains des gens d'église, qu'ils n'appellent pas au secours de leur éloquence et de leur doctrine le glaive du magistrat, de peur que, peut-être, tout en prétendant montrer leur amour pour la vérité, ce zèle trop ardent, qui ne respire que le fer et le feu, ne trahisse leur ambition et ne découvre qu'ils cherchent la domination plus que toute autre chose. Du moins, on aurait de la peine à persuader à des hommes de bon sens qu'on souhaite avec ardeur le salut de ses frères et qu'on travaille de bonne foi à les garantir des flammes éternelles de l'enfer, pendant qu'on les livre ici-bas pour être brûlés vifs à la main du bourreau et qu'on regarde cet affreux spectacle d'un œil sec et d'un air content.